Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Eh bien, nous continuons notre réflexion sur la culture générale, que je fais à partir de mon livre « Comprendre la culture générale », paru chez Ellipse à Paris, il y a un certain nombre d'années, et toujours disponible en librairie. Alors, où en sommes-nous? Eh bien, nous en sommes au chapitre 10 de cet ouvrage, qui s'intitule « Les représentations religieuses ». La semaine dernière, nous avons vu que le christianisme se caractérisait par l'idée d'incarnation de Dieu, le christianisme majoritaire, je répète bien, hein, puisque il y a des christianismes marginaux qui n'acceptent pas cette incarnation. Mais c'est vrai que le christianisme majoritaire formule justement que depuis Nicée, depuis 325 après Jésus-Christ, que le Fils est consubstantiel au Père, homo ousios, et non pas, comme le disait Arius, homo ousios. Et la formulation d'Arius a été toujours condamnée, anathématisée par les conciles. Par exemple, si quelqu'un dit que un jour fut où le Christ n'était pas, où le Fils n'était pas, en poté ouk en ouios en grec, c'est ce que disait Arius, il y eut un jour où le Fils n'était pas, eh bien, qu'il soit anathème. On dit les conciles, voilà, il fallait refuser justement cette idée qui humanisait en quelque sorte le Christ. Le Christ était consubstantiel depuis l'origine, voilà. Alors maintenant nous allons voir comment après 1000 ans d'une chrétienté relativement homogène, il y a eu cet éclatement entre christianisme occidental, romain, et christianisme oriental. C'est aux alentours de l'an 1000-1050. Sur quel fait s'est basée cette distinction? Alors, par exemple, le credo de Nicée dit que initialement le Fils procède l'esprit procède du Père, voilà, du Père. Bon, eh bien, Rome a pris l'habitude, au fil du temps, d'ajouter, dans la traduction latine, « et du Fils ». Et donc, dans le credo de Nicée latin, vous avez l'esprit « qui ex patre filioque procedit », filioque, l'esprit qui possède à la fois du Père et du Fils. Alors, cette question du filioque, justement, a causé la séparation entre l'Église romaine occidentale et l'Église orientale, le christianisme oriental qui s'est appelé orthodoxe. Au mieux, les orthodoxes pourraient dire que l'esprit procède du Père par le Fils, mais jamais que l'esprit procède du Père et du Fils à la fois. Cette question, on l'appelle la double procession de l'esprit. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut, en l'honneur du Christ, processionner deux fois, la double procession, pas du tout. Non, ça veut dire que, pour les catholiques romains, l'esprit procède du Père et du Fils à la fois. Filioque. Alors, qui a raison? Alors, à l'égard des textes évangéliques, eux-mêmes, c'est l'orthodoxie qui a raison, puisque Jésus, dans l'évangile de Jean, dit à ses disciples, « Je m'en vais, je reviens auprès du Père, mais je vous enverrai le paraclet, le paraclitos, paraclitos, c'est-à-dire l'avocat, advocatus en latin, c'est-à-dire l'Esprit, le Saint-Esprit, qui vient du Père. » Voilà. Et c'est tout, il n'y a pas qui vient. Donc l'orthodoxie a raison à l'égard des textes initiaux. Maintenant, bon, l'ajout du filioque a pour avantage peut-être de davantage humaniser les choses. Si l'esprit procède du Père et du Fils, le Fils a plus d'importance. Tandis que si l'esprit ne procède que du Père, le Fils est subordonné au Père, ce qu'on appelle le subordinationnisme. La subordination. Et d'ailleurs, l'évangile de Jean dit lui-même, fait dire à Jésus, le Père est plus grand que moi. Vous voyez? voyez, hein. Donc, dans l'évangile de Jean, où Jésus a pourtant une grande stature, une stature déjà pré-divine, eh bien, il y a quand même une modestie, hein. Le Père est plus grand que moi, je vous enverrai l'avocat, le paraclet, qui vit l'esprit qui vient du Père. Donc, tout cela montre qu'au début, il y avait quand même une grande prudence. Eh bien, l'Église romaine n'a pas eu cette prudence. Alors, il y a eu d'autres choses qui ont fait la causé la séparation, hein. Par exemple, Rome dit que la transsubstantiation doit se faire, c'est-à-dire la transformation du pain en corps du Christ, en corps du Sauveur, elle doit se faire avec du pain azim, hein. Et puis parce qu'on suppose que c'est ainsi que Jésus a procédé, avec du pain azim lors du dernier repas, lors de la dernière scène, alors que l'Orient chrétien accepte le pain fermenté, le pain azim et sans levain, et c'est l'opposition des azimites et des fermentaires, c'est-à-dire ceux qui sont partisans du pain azim, ceux qui sont partisans du pain levé. Vous voyez, donc il y a eu d'autres petites choses qui font que finalement les deux chrétientés se sont séparées, hein, et finalement pendant 500 ans jusqu'à la réforme où il y a eu ce schisme au milieu justement de la chrétienté romaine, on n'a eu que deux christianismes à partir de 1520, hein, à partir des thèses de Luther. Alors la réforme justement s'est séparée du monde romain, et finalement c'est un nouveau rameau du christianisme qui est apparu. Alors, si on fait le bilan de tout ça, tirons des petits bilans. Bon, on peut dire d'abord que l'incarnation de Dieu sépare radicalement le christianisme d'un côté et le judaïsme et l'islam de l'autre, hein. Bon, jamais pour un juif, Dieu ne peut prendre figure humaine. Ça, c'est un fait, hein. Et pour un musulman, même chose, puisqu'il est dit dans le Coran que Dieu n'a pas engendré, etc., hein. Donc, Jésus est un prophète, comme Mahomet, hein. Donc, ce n'est qu'un prophète. Donc, il faut bien savoir cela, que dans le christianisme, je répète, majoritaire, le christianisme nicéen, post-nicéen, etc., se démarque totalement de la religion dont il vient, le judaïsme, et de la religion futur, puisque si on prend les premiers, le début du christianisme, qu'a été l'islam. Alors, l'islam, c'est tout simplement une réactivation du judéo-christianisme des origines. Il y a eu dans les origines du christianisme des gens qui ne voulaient pas rompre complètement avec l'héritage juif, hein, les ébionites par exemple, bon, il y a eu les judéo-chrétiens ou les chrétiens judaïsants groupés autour de Jacques, le frère du Seigneur, dans l'église de Jérusalem à l'origine, hein, et puis après, lorsque l'Église justement a accepté l'homoousia, hein, la consubstantialité, à ce moment-là, tous ces judéo-chrétiens ont été expulsés vers l'Orient, hein, et on dit que c'est un Nestorien. Je dis la semaine dernière que Nestorius n'admettait pas que Marie puisse être la mère de Dieu. Elle était tout au plus pour Nestorius la mère du Messie, la mère du Christ, hein. On dit que c'est un Nestorien qui aurait révélé à Mahomet son message, le message qui devait être le Coran. Donc, on pourrait voir l'islam comme un judéo-christianisme expulsé vers l'Orient, hein, à partir du moment où la chrétienté s'est installée à Rome et à Byzance, par exemple. Hein, et finalement, c'est un retour à quelque chose d'initial. Donc, juifs et musulmans partagent la même option. Dieu ne peut pas s'installer incarné, hein. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, c'est ce que dit la Shahada musulmane, la profession de foi musulmane. C'est une antanaclase sur le mot Dieu, c'est-à-dire on répète le mot Dieu en lui donnant chaque fois un sens différent. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, Dieu n'a pas engendré, Dieu n'a pas, ne s'est pas incarné. Ça, c'est rigoureux. Donc il faut le savoir, hein, pour voir les enjeux des conflits que nous avons aujourd'hui. Hein. Cette incarnation chez nous a été très loin, surtout dans le monde catholique romain. Hein. Vous avez par exemple l'enfant Jésus, hein, que l'on voit dans la crèche. Hein. Bon, le Jésus bambino des Italiens, hein, l'enfant Jésus, c'est une sorte de bébé cadom, hein, aux chairs roses, qui joue, qui se tortille dans tous les sens. Hein. Enfant, ça veut dire quoi en latin? Infant, ça veut dire qu'il ne parle pas. Non pas qu'il n'ait pas de son, il gazouille l'enfant, hein, mais il n'a pas de langage rationnel. Or, où est le logos, justement, dans l'enfant Jésus, hein, dans la crèche? Non. D'ailleurs, l'Orient chrétien est plus prudent, puisqu'il nous montre Jésus avec un rouleau à la main, pour bien marquer qu'il s'agit du logos, hein, du début du prologue de Jean. Hein, voyez. Et donc, chez nous, on a vu cette incarnation de façon tout à fait païenne. Hein. Dans le paganisme, Zeus séduit les mortels et un fils divin naît de cette union. Hein. Ce fils divin, c'est un demi-dieu, voyez. Et dans notre calendrier, regardez le calendrier que nous avons chez nous. Hein. L'Annonciation est fêtée le 25 mars. Bon, et si on compte 9 mois, on a appris le 25 décembre. Donc 9 mois, c'est le temps d'une gestation humaine. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui a été interprété d'une façon littérale. Renan disait avec une littéralité effrénée. Alors il me vient à l'esprit un mot d'un archevêque de Paris au XIXe siècle qui aurait dit « Non seulement Jésus-Christ était fils de Dieu, mais il était encore d'une excellente famille du côté de sa mère. » Donc on trouve ça dans le dictionnaire de la bêtise de Jean-Claude Carrière chez Lafond, dans la collection Bouquin, vous voyez. Donc on a vu justement cette incarnation divine sur le mode des frasques de Jupiter avec Léda, ou vous voyez, donc il séduit une mortelle, hein, et de cette union va naître un demi-dieu. Donc c'est quelque chose. Alors pour les musulmans, nous sommes totalement païens de ce point de vue. Nous voyons cette incarnation divine de Dieu qui est impossible, hein, pour eux, d'une façon, pour eux, totalement païenne. Hein. Le christianisme, c'est le plus enraciné, c'est le plus humain, justement, des trois religions abrahamiques, mais la transcendance risque très vite d'y disparaître. Alors, qu'en est-il, par exemple, du destin, hein. On dit volontiers, je pense à ce que dit Vigny dans Les Destinées, que le christianisme a fait reculer le fatum antique, hein. Le Christ, pour Vigny, délivre les hommes du joug immémorial des destinées. L'épigraphe du poème Les Destinées, c'est « c'était écrit, mektoub, hein, c'était écrit ». Alors, depuis toujours, les hommes tremblent devant le destin. Chez les Grecs eux-mêmes, les dieux sont soumis au destin, puisque Jupiter ne peut pas, contre la volonté du destin, ressusciter son fils Sarpédon, par exemple. Et enfin, Divini, arrive le sauveur Jésus. Et le sauveur Jésus est comparé à un jeune athlète. Hein. C'est le demi-dieu ou le héros, fils de Dieu des anciens. Fils de Dieu étant pris alors au sens très propre, au sens propre. Hein. Et le contresens se perpétue. On pense au Christ de la chapelle Sixtine, de Michel-Ange, le Christ Rambo, hein, le Christ du jugement dernier. Cette modalité héroïque du christianisme n'a pas grand-chose à voir avec les débuts que l'on voit dans les évangiles. Alors bien sûr, les destinées ne sont pas pour autant condamnées au chômage. Elles redescendent peser sur les hommes sous un nouveau nom. Ce nouveau nom, c'est la grâce. Hein. Et alors on voit bien sûr que la vision occidentale n'est pas totalement triomphaliste ou angélique. Mais une chose est de lutter avec l'espoir d'un salut, et autre chose est de lutter sans espoir. Pour Vigny, le christianisme seul permet cet espoir. Ainsi, son poème se termine par « Notre mot éternel s'était écrit ?» Sur le livre de Dieu, dit l'Orient esclave, et l'Occident répond « Sur le livre du Christ ». Donc, cette idée de libération de la peur ancestrale par Jésus a été, bien sûr, exploitée à l'époque romantique, où on a vu dans Jésus, finalement, un révolutionnaire. Hein. Mais il faut être très prudent là-dessus. Hein. Il faut être très prudent. En effet, on gagne et on perd. Les dieux ne meurent que d'être parmi nous, hein, voilà. C'est René Char qui dit ça, hein. Il ne faut pas toucher aux idoles, la dorure en reste aux mains. C'est ce que dit Flaubert, je crois, dans Madame Bovary. Donc, il faut que les dieux restent un peu, ou le divin reste un peu extérieur à nous, et qu'il ne soit pas si proche de nous que son existence spécifique puisse en être annulée, hein. Je crois que la transcendance a besoin justement d'être respectée, elle l'est dans le judaïsme, elle l'est dans l'islam, elle l'est moins dans le christianisme, hein, la plus humaine de ces trois options, et bon, comme toujours, on gagne et on perd, on va le voir après la virgule musicale. Eh bien, je parlais de transcendance. Est-ce qu'on peut représenter la transcendance ? Pour le judaïsme, non, c'est impossible. Pour l'islam, non plus. Hein. Mais chez nous, nous l'avons voulu le représenter, surtout dans la modalité catholique romaine, justement, du christianisme. Or, peut-être qu'on oublie, par exemple, ce que dit Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. Hein. Lorsque le Petit Prince demande à l'aviateur « Dessine-moi un mouton », l'aviateur dessine plusieurs moutons, hein, et aucun ne satisfait le petit prince, et à la fin, l'aviateur dessine une boîte, et il dit au petit prince, voilà, le mouton que tu voulais, que tu espérais, il est dans la boîte. C'est-à-dire qu'on ne voit pas l'essentiel, hein. Nul ne peut me voir et vivre, hein, dit l'Exode, donc dans la Bible juive. Donc on ne peut pas, alors le christianisme a modéré cette interdiction, hein, puisque déjà dans l'Évangile, il est dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Obsontai, ils verront. Hein. Donc déjà, il y a un embryon de lever de cet interdit. Et puis aussi, comme Jésus, justement, était un homme, comme en lui le divin s'est incarné, en tant qu'homme, on a pu le représenter. Dans l'icône, on le représente, mais avec beaucoup de règles impératives. Tandis qu'en Occident, alors là, il y a un déluge d'images à partir de la contre-réforme, contre le protestantisme iconoclaste. Eh bien, le catholicisme, au lieu de se réformer lui-même, a défendu tout ce que les protestants attaquaient. Hein. Ils attaquaient les images, eh bien, il y a eu un déluge d'images à partir du Concile de Trente. Alors reprenons, ce sentiment de sacré, ce sentiment de transcendance, c'est quelque chose qui est du tout autre, hein, ce que Rudolf Otto, dans son livre qui s'appelle « Le sacré »,« Heilige »,« Das Heilige », hein, ce qu'il appelle le « numineux ».« Numineux » vient du latin « numen » qui veut dire « puissance sacrée ». Le sacré, c'est ce qui suscite un frisson, une sorte de chair de poule. C'est l'aurore des latins, hein, aurore, hein, oresco, ma peau frémit en quelque sorte. Hein. Il se fait sentir le sacré dans certains lieux privilégiés, par exemple les forêts. Hein. Vous voyez ce que dit Baudelaire, « Grand bois, vous m'effrayez comme des cathédrales ». Et Chateaubriand, à l'inverse, comparait les cathédrales gothiques aux forêts. Mais l'idée est la même, hein. C'est dans le génie du christianisme. Donc dans une forêt, on peut sentir le numineux, hein, mais on le sent, on ne le voit pas véritablement. Et toutes les cultures ont senti cette présence invisible et absente, incommensurable avec toutes les choses présentes, et qui frappe toutes les choses présentes d'inanité. Alors on a déjà parlé des chênes de Dodone, dans le feuillage desquels Zeus se faisait entendre. C'était l'oracle, on entendait le bruit du vent dans les chênes à Dodone, et on y voyait des prophéties. Tout le monde a fait cette expérience. Je parlais de Baudelaire, voyez le début du poème de Baudelaire qui s'appelle « Corée ». La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois passer de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles, qu'il observe avec des regards familiers. Dans ces piliers sont des arbres. C'est tout à fait l'idée des chênes de Dodone, où on allait chercher des oracles. Alors pour sentir justement cela, il suffit tout simplement de sortir de chez soi, de marcher au hasard. Et la moindre promenade nous fera sentir cet invisible qui est partout présent, je veux dire le vent. Le vent s'entend mais ne se voit pas. On le sent partout, par les pores de sa peau, mais on ne peut que le déduire du mouvement des choses. On voit par exemple des roseaux que le vent agite, mais les roseaux ne sont pas le vent. Le vent, c'est ce souffle qui nous effleure, qui nous entoure, qui nous environne. Et Dieu, c'est la même chose. Dieu, initialement, est un souffle, comme il se voit au début de la Genèse. Hein. Un vent de Dieu, un souffle de Dieu, planer au-dessus des eaux. Ça, c'est du numineux. Hein. Un vent terrible. Je vous signale qu'en japonais, kamikaze, ça veut dire un vent terrible. Kami, c'est le sacré inhérent aux choses. Hein. Donc, c'est un peu ce qui se passe au tout début de la Genèse. Hein. Alors, ce souffle, en hébreu, c'est roar. Hein, roar, c'est féminin. En grec, c'est pneuma, c'est neutre. En latin, c'est spiritus, c'est masculin. Donc, Dieu est esprit, mais au sens de respiration, hein. C'est Genèse 1-2. Et à partir de 1-3, alors il va se mettre à parler. Ça, c'est autre chose. Mais initialement, il y a du souffle, il y a une respiration. Alors, dans toutes les cultures, vous avez ce souffle initial. En Inde, il s'appelle prana, hein. En Chine, il s'appelle chi, hein, que vous avez dans tai chi chuan. Au Japon, il s'appelle ki, que vous avez dans aikido, la voix du souffle, hein. Voilà. Alors ensuite, tout cela se rationalise en parole et en intelligence. C'est ce qu'on voit au début de l'évangile de Jean. Hein. Au début était le Logos. Hein. Mais primitivement, avant le Logos, il y avait le souffle. C'est ce que ne dit pas le prologue de l'évangile de Jean. Primitivement, il y a présence d'un souffle invisible qui est l'essence même du sacré, du sentiment de transcendance. Donc de Genèse 1, verset 2 à Genèse 1, verset 3, Dieu dit que la lumière soit, à ce moment-là, on passe du souffle, de la respiration, à la parole articulée, et donc rationnelle, éventuellement. Hein. Mais le souffle ou la voix du vent sont antérieurs à la vue. Il n'est pas besoin d'ouvrir les yeux pour entendre le vent. En effet, la vue, si on y réfléchit bien, elle nous latéralise et nous limite. Nous ne pouvons voir que ce qui est devant nous, alors qu'au contraire, nous pouvons entendre tout ce qui est derrière nous. Vous voyez ? Donc, c'est ce que dit L'évangile selon Jean, au chapitre 3, au verset 8, hein, le souffle souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, mais où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né du souffle, ectou pneumatos, hein, du souffle. Donc c'est le passage d'un vent au vent, et c'est essentiel, qui sera l'esprit, le souffle, c'est l'esprit de Dieu, et l'homme va renaître du souffle. Il est né à nouveau, il est re-né, notre prénom, c'est Renatus, né à nouveau, il est né du souffle. Donc, l'argument en faveur du vent, en faveur de l'invisible, est irréfutable. Voyez ce que dit Maupassant dans le Horla. Le vent qui tue, qui siffle, qui gémit, qui mugit, l'avez-vous vu et pouvez-vous le voir ? Il existe pourtant, hein. Alors c'est vrai que tantôt le vent nous porte et nous accompagne, et tantôt il nous déracine. Ça c'est possible, parce que il y a un mauvais usage de ce vent. Je pense que certains protestants évangéliques, par exemple, négocient mal le vent, le souffle, l'esprit. Hein. Voyez par exemple dans Mythologie de Barthes le passage consacré à Billy Graham aux Veldives. Hein. Mais ce qui est certain, c'est que même s'il y a un mauvais usage du vent, le vent peut nous faire avancer, mais il peut nous déraciner. Hein. De même, quand on fait de la voile, s'il n'y a pas de vent, on est en panne et on n'avance pas. Mais si le vent est trop fort, nous pouvons dessaler, nous pouvons chavirer. Donc, il faut se méfier d'un mauvais usage du vent. Mais enfin, il est essentiel, ce vent. Il est essentiel et l'important, c'est qu'on ne le voit pas. Et c'est pour ça que la voix est beaucoup plus prenante que la vue. Hein. Par exemple, lorsque quelqu'un est mort, on peut être davantage bouleversé en entendant sa voix au magnétophone, hein, plutôt qu'en voyant sa photo. Hein. Donc la voix nous touche beaucoup plus, elle descend dans nos entrailles, en quelque sorte, au fond de notre cœur. C'est déchirant d'entendre la voix de quelqu'un qui a disparu. L'inflexion des voix chères qui se sont tues, comme le dit Verlaine, mais j'ai bien peur que ça soit un peu euphémisé, là, hein, dans le poème de Verlaine, dans Mon rêve familier. Parce que, en fait, entendre une voix d'une personne qu'on a aimée et qui n'est plus, c'est quelque chose qui est bouleversant. Beaucoup plus, je le répète, que de voir sa photo. Alors, ce n'est pas pour rien que les cultures, les religions de la transcendance pure sont des religions de l'oreille. Hein. Bon, le credo juif, c'est tout simplement un credo entre guillemets, mais bien sûr, c'est schéma Israël, Adonai Eloheinu, c'est-à-dire écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu et notre Elohim, hein. Écoute, schéma, hein. Donc c'est très important, la voix va beaucoup plus loin que la vue, hein. Alors si pour reprendre ce vent là, je relisais l'autre jour ce que dit Agathe dans Électre de Giraudoux, hein. Le vent, dit-elle, est le grand amant des femmes, elle nous trompe tous les jours avec n'importe quoi, au premier souffle accouru, etc. Et c'est vrai, hein, mais une femme même fidèle à son mari, par exemple, peut être toute pénétrée par les souffles du vent qui vont s'engouffrer en elle. Le vent friponde, en parle Georges Brassens. Hein. Je pense à Marilyn Monroe sur sa bouche d'aération, là, dans le film connu, hein, le vent qui soulève les jupes. Donc, ce qui est sûr, voyez aussi ce que dit Gibran dans le prophète, hein. Laissez le vent jouer avec vos cheveux. Donc, écoutez le vent et accueillez-le quand il vient vous caresser. Alors, les cultures, désormais, ont le choix. Ou bien elle refuse totalement de rendre compte de façon visible de cette présence invisible ou de cette transcendance, ou bien elle la suggère au moyen de signes visibles minimaux ou abstraits, ou bien alors elle s'engage dans la voie de l'apprivoisement de ce mystère qu'elles rendent de plus en plus proches et de moins en moins opaques par le naturalisme de la figuration. Le christianisme occidental s'est engagé dans cette voie, dans la troisième voie, qui est évidemment la plus humaniste, et il a pensé que la présence de l'invisible pouvait se suggérer ou se faire voir. Hein. Le christianisme orthodoxe a choisi la deuxième voie, hein, la suggérer au moyen de signes visibles, minimaux ou abstraits. C'est le cas de l'icône. Hein. Tout n'est pas faisable dans l'icône. Hein. On ne peut pas faire n'importe quoi. Hein. Donc, finalement, si on réfléchit sur la question, on se dit, quel statut une culture donne-t-elle aux images, hein? Une synagogue, une mosquée, un temple protestant n'ont pas d'image, qu'il s'agisse de statues ou de tableaux. Une église orthodoxe a des images, mais bidimensionnelles, les icônes. Elle refuse les statues, hein, parce que les statues étant tridimensionnelles sont trop proches de l'humain. Et au contraire, une église catholique romaine a un déluge d'images, qu'il s'agisse des tableaux ou qu'il s'agisse des statues. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Le culte peut s'appuyer sur la parole et la musique, le plus abstrait des arts, c'est le cas du judaïsme, c'est le cas du protestantisme, du christianisme protestant, hein. Ou bien elle peut aussi admettre les images et cela fait une très grande différence. À la limite, chez nous, le déluge d'images est tel qu'on peut dire qu'il y a de la contre-réforme à Hollywood, par exemple, une chaîne bien nouée. Hein. Voyez aussi les panneaux publicitaires de nos villes, qui sont les iconostases modernes. Ça correspond, je dirais, à la victoire de Saint-Ignace et de la contre-réforme sur Luther. Saint-Ignace a écrit les exercices spirituels, qui sont un appel à l'imagination. Nous dit, imagine-toi comment Jésus a pu souffrir sur la croix, imagine-toi le sang qui coule de ses plaies, qui va te racheter, etc. Donc l'imagination va générer des images, et la contre-réforme a valorisé tout ça. Quant à Luther et le protestantisme, il n'y avait pas du tout d'attrait pour cela, au contraire, il y a eu un iconoclasme protestant très important, c'est-à-dire on a brisé les images. Alors, je dirais que une culture qui valorise les images au sens de dispositifs de reproduction qui cherchent la ressemblance, la mimésis, l'imitation de la vie, est une culture qui est plus réconciliée avec la vie ou avec le monde. Et à l'inverse, une culture du signe abstrait, de l'arabesque, c'est une culture qui ne valorise que la transcendance ou une espèce de surmonde, en quelque sorte. Donc il faut bien voir cela. Hein. Il n'y a pas de bon choix, pas du tout. Hein. Il n'y a pas de... Bon, il y a eu à Byzance une querelle, la querelle de l'iconoclasme entre ceux qui voulaient les briser, les icônes, les images, Klatzein, hein, et ceux qui voulaient les accepter. Alors, les seconds l'ont emporté, mais tout n'était pas faisable. L'icône a des canons, hein, esthétiques très stricts. Hein, et à la limite, elle est proche de l'abstraction, si on réfléchit bien. Regardez, par exemple, ce n'est pas pour rien que Kandinsky et Javlinsky, par exemple, qui sont des peintres abstraits, étaient familiers de justement du monde des icônes. Il semble que l'icône soit presque le regret de son sujet. Voilà, eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous donner rendez-vous à la semaine prochaine où nous continuerons cette réflexion sur les cheminements de l'imagination, hein, et de l'humanisation, en quelque sorte. Hein. La part d'Aaron, hein, l'image, et la part de Moïse au Sinaï ou au buisson ardent. Voilà, hein, donc ces deux parties constituent entièrement. Hein. Nous sommes à la fois Aaron qui fait le veau d'or et Moïse face au mystère du buisson ardent, ou Moïse qui brise justement les images. Voilà, bien chers auditeurs, passez une bonne semaine et donc je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Au revoir.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.